Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée au sujet du bac d'histoire. Dans une semaine pendant laquelle, sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance à 10h, la compagnie des auteurs à 15h et les émissions de science à 16h, eh bien ces émissions participent à une opération que nous appelons Bac 2016, mention France Culture. Cette semaine, nous préparerons quatre chapitres du programme de Terminal, gouverner la France depuis 1946 pour la première émission. La deuxième sera consacrée à médias et opinion publique. La troisième aux États-Unis et au monde. Et pour conclure, la Chine et le monde. Chaque jour, une même règle. Un documentaire de 20 minutes préparé par Victor Massé de l'Épinay et réalisé par Séverine Cassard comme une sorte d'encadré sur un événement marquant du chapitre du jour. Puis un corrigé par un professeur ou plusieurs professeurs. Tout de suite, le sujet du jour, c'est gouverner la France depuis 1946, avec comme encadré documentaire l'élection présidentielle de 1965, de belles archives tirées du fond de l'Institut National de l'Audiovisuel, commenté par Jean Garrigue, professeur d'université à Orléans et à Sciences Po Paris, et puis un corrigé préparé ensuite par Rémi Pavin, professeur au lycée Blaise Sandrard de Sevran.
Il s'agit que dorénavant le président de la République soit élu au suffrage universel. Dès l'origine, je savais que je devrais, avant la fin de mon septennat, proposer au pays de décider qu'il en soit ainsi. Mais des raisons pressantes me détermine à prendre dès maintenant cette initiative, comme j'en ai le droit et le devoir. Tout d'abord, les attentats perpétrés ou préparés contre ma vie me font une obligation d'assurer, après moi, pour autant que je le puisse, une république solide, ce qui implique qu'elle le soit au sommet. En outre, devant l'inquiétude générale suscitée par ces tentatives de meurtre, quant au risque de confusion que la France pourrait courir soudain, je crois nécessaire qu'un vote massif de la nation atteste en ce moment même qu'elle a des institutions, qu'elle entend les maintenir et qu'elle ne veut pas, après De Gaulle, revoir l'État livré aux pratiques politiques qui l'amèneraient à une odieuse catastrophe et cette fois-là, sans aucun recours.
Jean Garrigue, pour évoquer l'élection présidentielle de 65, on commence avec une archive de 1962. C'est le général de Gaulle qui propose aux Français un référendum pour élire le président de la République au suffrage universel direct. Comment est-ce que ça se passait avant 1962 ?
Eh bien, depuis 1958, le président de la République était élu par un collège électoral de 80 000 et un peu plus d'électeurs, qui englobait à la fois les parlementaires et puis les élus des conseils généraux et des conseils municipaux. Et depuis le début, le général de Gaulle avait l'intention de renforcer la légitimité du président en le faisant élire au suffrage universel. Il trouve le prétexte de cette révision après les attentats qui ont suivi la fin de la guerre d'Algérie. Et ce prétexte va être contesté par une très grande partie des juristes et de la classe politique française. Un cartel des noms se constitue pour s'opposer à la révision du général de Gaulle. Mais, comme toujours, il va passer en force en proposant un référendum aux Français. Et ce référendum va être un très grand succès pour lui. Et il peut se prévaloir donc de cette légitimité du référendum pour entrer dans une république véritablement présidentielle.
Pourquoi est-ce que cette élection au suffrage universel achève le projet de 5e République, si c'est bien de cela qu'il s'agit?
Oui, il s'agit pour le général de Gaulle de construire la Ve République autour de la figure présidentielle, qui est la figure du chef d'État et qui impulse les grandes orientations de la politique. Il ne peut pas le faire en 1958 parce qu'il a encore besoin du soutien des grands partis politiques pour mettre en place le régime. Il lui faut donc une légitimité, celle qu'avait eue en 1848, le président de la Deuxième République. On revient à ce système, mais cette fois, les hommes et les femmes vont pouvoir voter. Il y aura une légitimité universelle pour le président de la République, et c'est ce que voulait le général.
Est-ce que cette proposition surprend en France en 1962 ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples en Europe ou dans le monde de chefs d'État élus au suffrage universel direct ?
C'est une exception française. Les autres grands pays européens de l'après-guerre ont choisi des systèmes parlementaires construits sur des figures de Premier ministre ou de président du Conseil dépositaire d'une majorité parlementaire. La France a choisi en 1958 un régime fondé sur la figure présidentielle. Mais c'est vraiment une exception à partir de 1962, puisque là on a un suffrage universel direct, alors que même aux États-Unis, le suffrage universel est indirect pour élire le président.
Vous avez évoqué les opposants à cette décision, le cartel des noms. On va écouter Gaston Monnerville, qui était président du Sénat, et qui explique pourquoi il est contre cette réforme.
Les responsabilités de notre Assemblée seront grandes et lourdes dans les semaines qui viennent. Chacun de vous, j'en suis sûr, sera les assumer en pleine conscience du devoir qui s'impose à nous. Ce devoir, c'est de défendre et de sauvegarder la République. Ce qu'on nous offre n'est pas la République, c'est au mieux une sorte de bonapartisme éclairé. Il n'y a plus de République lorsque le pouvoir ne s'impose plus à lui-même le respect de la loi. Au peuple de France, si généreux, si fraternel, je dis aimez votre République, la vraie, celle que vous en faites vos ancêtres courageux. Ne vous retirez pas de votre propre souveraineté. N'abdiquez entre les mains de quiconque votre sûreté, votre liberté, votre dignité. Ne vous laissez aveugler par nulle gloire passée. Restez fidèles à la probité républicaine. La lutte sera peut-être longue. Elle sera dure, courage et persévérance. Et la République sera sauvée.
Jean Garrigue, aujourd'hui, il peut paraître compliqué de comprendre les arguments du cartel des noms, qui semble dire, là par la voix de Gaston Monnerville, que la République est en danger si le président de la République est élu au suffrage universel direct.
Il y a deux choses. Il y a un aspect politique et un aspect juridique. En fait, le cartel des noms, il s'est constitué pour des raisons juridiques, parce que la procédure de révision en faisant appel au référendum est contestée, d'ailleurs par une majorité de juristes et par l'ensemble de la classe politique. Les parlementaires se considèrent donc comme dépossédés de leur droit constitutionnel de réviser la Constitution. Et c'est ça qui est reproché au général de Gaulle. Et puis sur le fond, ce qui est reproché au général, c'est évidemment de vouloir conduire la République vers une inflexion présidentialiste qui remémore les souvenirs sanglants, tragiques du bonapartisme. Et cette mémoire bonapartiste pèse très très fort sur la classe politique française à l'époque. On se souvient de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République en 1848 par le suffrage universel, même s'il n'était que masculin, et qui ensuite, par le coup d'État du 2 décembre 1851, a transformé son régime en dictature. Il y a donc cette mémoire du bonapartisme qui est très très forte chez ces hommes de 1962.
Le cartel des noms, c'est qui ? Ce sont quelles forces sur l'échiquier politique ?
Le cartel des noms, c'est tout le monde sauf les gaullistes. Ce sont aussi bien les communistes, les socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, que les hommes de la droite libérale, comme Paul Reynaud, qui est en première ligne contre le général de Gaulle à l'Assemblée nationale.
Alors finalement, ce référendum aura lieu le 28 octobre 1962, et le oui l'emportera. C'est une demi-surprise.
La victoire du oui n'est pas tout à fait une surprise, car le prestige personnel du général de Gaulle, double sauveur en 1940 puis en 1958, est tel qu'on savait très bien que la majorité de la population le suivrait au nom précisément de cette légitimité historique qui est la sienne. On peut dire que la légitimité historique l'emporte au fond sur la légitimité politique.
Alors 3 ans plus tard, nous sommes à la fin de l'année 1965, cette élection présidentielle s'annonce. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean Garrigue, qui sont, à part le général de Gaulle, les principaux candidats ?
On pourrait dire que pour l'élection de 1965, il y a le général de Gaulle et les autres. Le général de Gaulle, celui qu'on désigne par le terme « qui vous savez », ce qui montre à quel point il est le candidat implicite, l'archi-favori, puisqu'il doit caracoler autour de 70% des intentions de vote 6 mois avant l'élection. Mais face à lui se dressent 2 hommes jeunes, si ce n'est des hommes nouveaux, puisque le premier d'entre eux, François Mitterrand, a été maintes fois ministre sous la 4e République, exerçait des responsabilités très importantes à cette époque. Mais c'est un homme qui n'a que 49 ans, alors que le général de Gaulle a dépassé les 75. Et il est surtout un candidat inattendu, puisqu'il n'appartient à aucun des grands partis de la gauche. Il dirige une petite convention des institutions républicaines, mais qui est un peu au centre de l'échiquier politique. Et il réussit ce tour de force d'être investi et soutenu par l'ensemble des partis de gauche, la SFIO, le Parti communiste français, le Parti radical, le PSU. Et il va faire une campagne qui va surprendre beaucoup, et en premier lieu le général de Gaulle.
Une telle décision ne saurait se fonder seulement sur le refus d'un mode ou d'une méthode de gouvernement. Elle se justifie aussi et surtout par les perspectives qu'elle ouvre à la nation. Il va de soi qu'il s'agit essentiellement pour moi d'opposer à l'arbitraire du pouvoir, au nationalisme chauvin et au conservatisme social, le respect scrupuleux de la loi et des libertés, la volonté de saisir toutes les chances de l'Europe et le dynamisme de l'expansion ordonné par la mise en œuvre d'un plan démocratique.
Alors à côté de François Mitterrand, un homme encore plus jeune que lui et qui va miser quasiment toute sa campagne autour de sa jeunesse, c'est Jean Le Canuet, que très peu de gens connaissent, même s'il est le président du MRP, c'est-à-dire du Mouvement des Républicains Populaires, le grand parti de la démocratie chrétienne. Il est sénateur de la Seine-Maritime, pas encore maire de Rouen.
Voici notre première rencontre. Vous allez donner vos voix. Il est naturel que vous connaissiez celui qui vous les demande, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme neuf. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans, c'est l'âge des responsables des grandes nations modernes.
Et lui aussi va faire une excellente campagne fondée notamment sur l'usage des médias, de la télévision, on y reviendra. Et Jean Le Canuet apparaît comme une sorte d'ovni dans le paysage politique français en 1965. Et cette nouveauté, cette modernité va faire son succès.
Vous pensez être élu ?
Si je pense être élu, messieurs d'Argent, si aux courses, c'était toujours le favori qui gagnait, mais personne ne jouerait au tiercé, il faut de temps en temps laisser sa chance à l'outsider. Je vais même vous dire, si dans l'histoire sainte, Goliath avait vaincu David, l'histoire sainte serait moins plaisante. Voulez-vous admettre que je suis aujourd'hui un David en forme excellente à l'égard d'un Goliath dont la fatigue mérite la déférence ?
Jean Garrigue, on vient d'entendre Jean-Louis Tixé-Vignancourt, qui était le candidat de l'extrême droite, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette archive qu'on vient d'entendre ?
Ça m'inspire qu'on est en présence d'un vieux cheval de retour de la Troisième République, déjà, car il hantait les bancs de la Chambre des députés déjà dans les années 30, en vociférant contre les gouvernements républicains. Il est le représentant de la droite nationale, c'est un avocat, c'est un grand orateur, c'est un ancien collaborateur du régime de Vichy, où il exerçait notamment la censure. Et c'est quelqu'un qui et Forengel, haut en couleur, qui d'ailleurs va organiser sa campagne autour d'une sorte de tournée des plages, on appellera ça le cirque Tixier, qui aime bien apostropher ses concurrents, et surtout le général de Gaulle, et qui surtout mise sur l'appui d'un électorat, j'allais dire captif, qui est celui des nostalgiques de l'Algérie française, puisque c'est autour de cette idée-là qu'il combat le général de Gaulle, avec comme directeur de campagne un jeune élu de l'extrême droite qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui a été député poujadiste en 1956 et qui fait ses classes par rapport à l'élection présidentielle en 1965.
On a donc évoqué Le Canuet, Mitterrand, Tixier-Vignancourt. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ?
Il y a une galerie de personnages assez pittoresques derrière les grands candidats. Il y en a deux qui sont là un peu pour faire de la figuration, mais que le public va apprécier. L'un est le sénateur des Charentes, Pierre Marcilassi, qui est le candidat du parti libéral européen, droite modérée, libérale. C'est un grand juriste. Et puis alors, il y a un tout petit candidat, mais qui est quelqu'un de, au fond, assez attachant, qui s'appelle Marcel Barbu, qui est une sorte d'anarchiste chrétien, qui a traversé toutes sortes d'épreuves dans sa vie, et qui se présente comme le candidat des petits, interpellant lui aussi le général de Gaulle, en lui demandant de se pencher vers son peuple, d'être aimé par ce peuple qu'il a un peu oublié. Le général de Gaulle le traite d'hurluberlu, la presse se moque de lui, et lui-même reconnaît qu'il a un air de chien battu, mais dit-il, je suis un chien battu depuis 58 ans.
Comment les grandes démocraties occidentales organisent-elles pendant les périodes électorales l'utilisation de la radio ou de la télévision ? Eh bien, j'ai fait établir des comparaisons rigoureuses avec toutes les démocraties occidentales. Je ne parle pas des autres. Partout, sans aucune exception, pour les élections nationales, la majorité sortante dispose d'un temps de parole à la radio et à la télévision, ou bien supérieur, dans le cas de l'Allemagne fédérale, par exemple, ou bien en tout cas égal à celui dont dispose l'opposition. Nous allons donc allègrement en France vers quelque chose comme 20 heures de radiodiffusion et de télévision sur les ondes nationales pour l'opposition et 4 heures seulement pour la Ve République. La France est le seul pays au monde dans ce cas.
Jean Garrig, nous venons d'écouter Alain Perfit qui explique la règle d'utilisation de la radio et de la télévision pendant cette campagne électorale.
Alain Perfit, c'est le ministre de l'information du général de Gaulle, c'est-à-dire celui qui a une ligne directe avec le directeur de l'information de ce qui s'appelait à l'époque l'ORTF, la radio-télévision française. Donc il est assez cocasse de l'entendre vanter le modèle libéral de la télécommunication française, dans la mesure où on sait très bien que depuis le début du régime gaulliste, l'information d'État, en tout cas, est confisquée par le pouvoir.
Et alors cette télévision va jouer un rôle déterminant et nouveau dans cette élection présidentielle.
Ah, c'est vraiment l'avènement de la télévision, j'allais dire de la télévision spectacle, car des hommes comme Le Canuet notamment vont beaucoup utiliser cette image. C'est l'image du Kennedy français, Monsieur Damblanche, disent ses adversaires. Ils jouent beaucoup sur cette jeunesse du candidat et sur l'avènement de la télévision. Parce que la télévision, c'est à peu près 6,5 millions de postes en 1965. Et c'est véritablement au moment des émissions de la campagne, à 13h et le soir vers 20h, c'est vraiment une ruée vers les postes de télévision un peu partout. La vie s'arrête dans les rues pour véritablement participer à cette première campagne télévisée. Et ce sera une des erreurs du général de Gaulle au début de la campagne que de ne pas l'avoir compris. Puisque des 70% qui lui étaient promis au début de la campagne, il se retrouve à peine à 50% après deux semaines de campagne. Et c'est là qu'il décide quand même de commencer à intervenir dans les médias. Alors le premier tour est une claque pour le général de Gaulle qui était persuadé être élu dès ce premier round. Il n'obtient que 45% des suffrages, ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme un très très bon résultat, mais qui pour le général de Gaulle est une déception. D'ailleurs il dira, vous voyez, on n'est pas en dictature puisqu'on n'a jamais vu un dictateur en ballotage. C'est un peu la traduction de son amertume par rapport à ce qui s'est passé dans ce premier tour, qui voit aussi François François Mitterrand dans une très très bonne position, puisqu'il est autour de 32% des suffrages, et que si on additionne les 15% de Jean Le Canuet plus les 5% de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui se désistent contre De Gaulle, pour Mitterrand, il y a une sorte de majorité potentielle pour François Mitterrand pour le second tour.
Alors le général de Gaulle va reprendre fortement la main entre les deux tours ?
Oui, c'est ce qui conduit le général de Gaulle à changer son fusil d'épaule pour la campagne du second tour.
Et on va entendre une archive d'un entretien entre les deux tours avec Michel Droit.
Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Mais en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Pour la campagne du second tour, le général de Gaulle investit la télévision et il est interviewé à plusieurs reprises par un journaliste qui lui est tout acquis, qui s'appelle Michel Droit du Figaro littéraire. Et ces interviews avec Michel Droit vont lui permettre de donner un nouveau visage. Un visage beaucoup plus humain, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus drôle même, de cette figure de commandeur qui était la sienne avant le premier tour. Il continue à jouer beaucoup sur la thématique du moi ou le chaos, mais en même temps, il se présente comme quelqu'un qui est à l'écoute des Français, comme quelqu'un qui comprend les préoccupations du Français. Il avait dit à son entourage, je vais quand même pas me mettre en pyjama devant les Français, mais c'est pourtant ce qu'il fait. Il dit, bon, j'ai mon âge, j'ai mes défauts, mais c'est moi qui défends la Ve République et pour lui, ça, c'est l'essentiel.
Et ça va s'avérer payant puisqu'il va remporter cette élection présidentielle au second tour contre François Mitterrand.
Le vote du second tour, le 19 décembre 1965, est une sorte de réflexe de défense du général de Gaulle, qui va finalement l'emporter avec un peu plus de 55% des suffrages devant François Mitterrand. Il y aura cette boutade fameuse de Gaston Defer qui dira « Les Français sont anti-gaullistes, mais pas les électeurs ».
Voilà donc pour ce documentaire que vous avez réalisé, Victor Massel-Lépinet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Avec Séverine Cassard et donc l'historien Jean Garrigue, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris, autour de la première élection au suffrage universel direct, en plein cœur, pourrait-on dire, de ce programme qui s'appelle « Gouverner la France depuis 1946 ». Bonjour Rémi Pavin.
Bonjour.
Vous êtes professeur au lycée Blaise Sandrard à Sevran. Et vous nous allez nous présenter justement la teneur de ce programme et surtout peut-être un corrigé qui permettrait aux élèves qui tomberaient sur ce sujet de s'en tirer au mieux vis-à-vis de ce thème « Gouverner la France depuis 1946 », Rémi Pavin.
Oui. Alors, de manière préliminaire, je voudrais commencer par dire que ce chapitre pour les TS, intitulé « Gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement, administration et opinion publique », on a rajouté pour les TS « Opinion publique » puisque le chapitre de demain « Médias et opinion publique » a été supprimé du programme, est un chapitre difficile pour les élèves pour deux raisons. D'abord, pour l'enseignant, ce n'est pas forcément de l'histoire, ça peut être du vécu. Donc il va très bien connaître cette histoire, contrairement aux élèves qui sont nés entre 1997 et 1999. En outre, c'est un sujet politique et d'actualité, et en général, les enseignants d'histoire géo suivent l'actualité, sont attentifs, ce qui n'est pas malheureusement le cas de tous les élèves. Du coup, les attentes des enseignants vont être assez élevées, et ils vont plus difficilement pardonner des approximations et des erreurs.
Parce qu'on a l'impression de bien connaître le sujet, parce qu'on est entre guillemets intéressé par la politique, on est citoyen en tant que professeur, et que de l'autre côté, peut-être, les élèves n'ont pas la même attention à ces questions d'actualité, à ces questions de politique, et donc ça fait une sorte de différence entre les deux.
Il peut y avoir un certain décalage. D'ailleurs, pour l'enseignant aussi, c'est un sujet qui est difficile, puisqu'il faut éviter de le transformer en histoire politique de la France depuis 1946. Il ne faut pas raconter par le menu la succession de tous les gouvernements, et il faut plutôt essayer de prendre de la hauteur pour réfléchir à la notion centrale. Je dirais en un mot que, pour ce terme gouverner, l'enseignant doit lui-même bien se gouverner. Alors, c'est préliminaire achevé, commençons. C'est toujours élégant de commencer par une citation. Et j'ai choisi Pierre Mendès-France en 1953, qui nous dit « gouverner, c'est choisir ». Cette réflexion nous offre une entrée sur donc le terme central du sujet, qui nous invite à réfléchir aux différents processus de décision et à mieux comprendre qui choisit en France, comment on choisit et ce que l'on choisit. Alors, je me suis focalisé sur la France métropolitaine, déjà que le sujet est assez large. Si on prend en compte l'empire colonial, ça risque d'être un peu compliqué, alors que pourtant il est bien présent jusqu'aux années 1960. Donc en France métropolitaine, l'État, une organisation souveraine qui administre une communauté établie sur un territoire défini et délimité par des frontières, il faut toujours définir dans une introduction, Eh bien l'État est le produit d'une longue construction historique. En quoi l'État occupe-t-il une place particulière en France? Quelles évolutions connaît le rôle de l'État? Voilà pour les problématiques relativement classiques et abordables pour un élève de terminale S. Pour les traiter, j'ai choisi un plan chronologique tuilé, avec des petits chevauchements.
Alors, un plan chronologique tuilé.
C'est-à-dire avec des petits, vous savez, les tuiles sur un toit, elles se chevauchent les unes les autres. C'est un petit peu ce principe que j'ai adopté. Donc, d'abord, j'évoquerai les compétences de l'État qui s'élargissent après la Seconde Guerre mondiale. L'État est au centre de la reconstruction économique, de la modernisation du pays, sous la quatrième, à partir de 1946. Au-delà de profondes modifications institutionnelles, la mise en place d'un régime nouveau à partir de 1958 ne change pas le rôle moteur de l'État dans les domaines régaliens, dans l'économie ou dans la protection sociale. Ce qui fait que j'en ferai une première partie en allant de 1946 jusqu'aux années 80.
Victor Massé-Lépine.
Oui, avant de continuer, Rémi Pavin, j'ai une petite question sur ce que vous venez de dire sur l'empire colonial. Est-ce que c'est une limite que vous avez posée et que les élèves doivent poser dans leur copie aussi? Ou est-ce que le chapitre est conçu pour ne parler en gros que de la France métropolitaine hors empire colonial?
Je pense que dans l'idée du programme, le chapitre est plutôt conçu comme pour parler de la France métropolitaine, mais dans une introduction, c'est toujours bien de poser un cadre géographique et éventuellement de justifier son choix. Donc, ce qui m'amènera ensuite, dans une seconde partie, à souligner la rupture des années 70-80. La place et les compétences de l'État sont remises en cause, et sa capacité à assurer la croissance économique et la cohésion de la société française est de plus en plus questionnée. Voilà pour l'introduction. Donc, grand 1, le renforcement de l'État de 1946 aux années 1970.
Si j'ai bien compris, c'est donc un plan en deux parties.
En deux parties, tout à fait.
Il faut préciser.
Alors, et est-ce qu'il faut, dès l'introduction, dire ce qui fait la rupture entre les deux parties? Puisque vous dites le tournant des années 70-80, c'est assez large quand même.
C'est pour ça que j'ai parlé de plan chronologique tuilé.
Oui, oui, absolument.
Ma rupture, elle est à la fin des années 70, si D'accord. vous voulez. Mais c'est bien de, dans une introduction, il faut annoncer son plan, donc annoncer la rupture entre les différentes parties. Tout
ça. Mais sans dire déjà trop à quoi ça correspond.
Bien sûr, il faut ménager un petit peu de suspense.
D'accord. Le professeur a eu beaucoup de copies à lire, donc il faut qu'il soit intéressé par la copie qu'il est en train d'entamer, c'est ça?
C'est ça. Alors, donc, je commencerai par souligner très brièvement le poids des héritages, en évoquant la tradition centralisatrice française. Dès la monarchie absolue, l'État est centralisé. Cette centralisation s'accentue avec la Révolution française, le jacobinisme, les institutions créées à cette époque, et puis à l'époque napoléonienne et dans les régimes politiques ultérieurs, sont également centralisées et très centralisatrices. Après l'héritage, j'insisterai sur la 4e République, qui est certes instable, mais qui renforce l'autorité de l'État. J'évoquerai brièvement l'instabilité ministérielle qui est liée au régime parlementaire instauré en 1946 et au mode de scrutin proportionnel. C'est difficile pour un gouvernement de gouverner parce qu'en fait le gouvernement peine à trouver une majorité au Parlement et à tout moment il risque de sauter. Pour preuve, j'en voudrais les 22 gouvernements qui se succèdent en seulement 12 ans. Ces gouvernements ne s'inscrivent pas dans la durée, mais, et c'est là que c'est intéressant, la valse des présidents du Conseil n'empêche pas une certaine continuité parce qu'un certain nombre de principes font consensus. On les retrouve dans le préambule de la Constitution, qui reprend les droits de l'homme de 1789 et les droits politiques, économiques.
Ça, c'est la Constitution de 1946.
Et les droits donc politiques, économiques et sociaux qui sont annoncés par le Conseil national de la Résistance, dans son programme du CNR, donc l'égalité homme-femme, le droit au travail, le droit syndical, le droit de grève et le droit à la protection sociale.
Et malgré la valse des présidents du Conseil, de ceux qui gouvernent, donc, eh bien, au bout du compte, vous dites que pendant toute cette période, certains grands principes sont maintenus malgré le changement du personnel politique.
Exactement. Ne serait-ce que parce qu'au sein de ce personnel politique, on a un grand nombre de résistants. Et ceux qui gouvernent, malgré leur diversité, donc sont plutôt issus de la résistance, aussi divers qu'ils soient, comme trois exemples, Guy Mollet, Pierre Mendès-France, René Pléven, tous trois sont résistants et de partis, d'horizons divers. Alors, et c'est ce personnel politique se rejoint dans une conception dirigiste et volontariste du gouvernement. Les compétences de l'État s'accroissent considérablement, et gouverner ne se résume pas aux fonctions régaliennes, donc justice, police, défense, mais s'entend dans des domaines bien plus larges. L'État-providence se met en place, qui vise à réduire les inégalités sociales.
Est-ce qu'il faut définir l'État-providence à ce moment-là? Ou est-ce que ça n'est pas la peine?
Justement, on va expliquer à travers ça, les mesures qu'il prend, qu'il met en place, et donc l'objectif, c'est donc oui de réduire les inégalités sociales et de. On peut évoquer le welfare state anglais, qui est un peu plus parlant, l'état de bien-être qu'on a refusé de traduire par état de bien-être au XIXe siècle. Bref, là, ça vient rentrer dans un peu trop de détails. Par contre, il faut signaler quelques exemples concrets. L'ordonnance de la sécurité sociale d'octobre 1945 qui crée la Sécu. Sécurité sociale qui permet aux assurés, par ses cotisations, d'avoir un droit à être soigné. On pourrait également évoquer les comités d'entreprise, obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, ou encore la loi de 1947 qui définit les habitations à loyer modéré. Le consensus est également assez fort sur la nécessité de moderniser l'économie. L'État, pour garantir le progrès social, devient un acteur majeur. Le commissariat au plan est créé en 1946, qui a pour but de planifier l'économie. Alors attention, pas de contresens, les élèves, il ne s'agit pas d'une planification à la soviétique, pas du tout. Mais toutefois, entre 44...
C'est d'orienter les choix, les grands choix d'orienter, économiques du
exactement,
gouvernement.
D'inciter fortement les entreprises à aller dans telle ou telle direction. Entre 44 et 46, justement, pour avoir des leviers, l'État nationalise l'énergie, les transports, des banques, les assurances... Et ces secteurs clés passent sous le contrôle de l'État et vont tenter de moderniser l'économie française. Pour mieux gouverner dans ces différents domaines, l'État veut aussi une administration plus efficace. L'ENA est créée en octobre 1945.
L'École nationale d'administration.
Tout à fait. Et l'ENA assure une formation unique pour les futurs hauts fonctionnaires qui sont également recrutés par un concours unique. Dans les années 50, apparaissent de véritables technocrates qui ont de hautes compétences administrative et technique, et dont le rôle est de servir l'État sans dépendre des gouvernements successifs. Alors, après avoir mis en valeur ce que l'on gouverne sous la IVe République, je montrerai ensuite que l'État gaulien poursuit la modernisation de la France, et donc j'insisterai plutôt sur la continuité que sur la rupture à propos de la place de l'État.
Donc là, on est toujours dans la première partie pour nos auditeurs, dans cette première partie jusque dans les années 70 et 80, et il y a a priori... C'est ce qu'on croit, une rupture au passage de la 4e et de la 5e République. Et vous, vous gommez un peu cette rupture pour montrer, Rémi Pavin, qu'au bout du compte, eh bien, le général de Gaulle continue d'une certaine façon un certain mode de gouvernement qui a été mis en place auparavant, même si le régime change.
Exactement, c'est ce que j'entends faire. Alors on change de sous-parti tout de même, on saute une ligne pour aérer la copie, mais on reste dans ce même mouvement. Alors... On évoque tout de même la rupture de la Ve République, hein, qui construit un système de gouvernement stable dans lequel les pouvoirs du président sont renforcés. La constitution de la Ve République, il faut bien lui faire un sort dans cette copie, porte l'empreinte du général de Gaulle. Le pouvoir exécutif est considérablement renforcé, le pouvoir législatif, lui, est plus strictement encadré. Le scrutin majoritaire uninominal permet de dégager des majorités claires, puisqu'il élimine les petits partis dans la représentation nationale. Le président dispose de pouvoirs propres, droit de dissolution, référendum, article 16, et, comme on l'entendait tout à l'heure dans le documentaire, ses pouvoirs sont donc renforcés, et il devient élu au suffrage universel direct à partir de 1965, suite à la réforme constitutionnelle de 62.
Alors justement, ce suffrage universel direct, puisque vous nous avez dit que dans le programme de Terminal S, la partie opinion publique était intégrée dans cette partie, gouverner la France depuis 1946, est-ce qu'il faut parler de l'opinion publique, du suffrage universel, peut-être aussi remonter au suffrage universel qui s'ouvre aux femmes, même si c'est un tout petit peu avant 1946.
Alors là, on est, je dirais que le suffrage universel aux femmes, c'est un petit peu lourd. Enfin, on peut l'évoquer peut-être en introduction, ça pourrait être une accroche. Par contre, effectivement, au moment où on parle du changement de constitution, ça peut être bienvenu de montrer que ce changement constitutionnel n'a pas été bien vécu par un grand nombre de partis et suscite une forte opposition de la part des médias et de l'opinion publique, et notamment de la gauche.
Et de remettre une partie de ce qu'on a entendu dans le documentaire d'auparavant, peut-être des citations tirées de ces extraits qu'on a entendus d'archives de l'INA ou des analyses de Jean Garrigue, on peut les remettre à l'intérieur de cette copie à cet endroit-là.
Oui. Malgré ces changements, justement, l'objectif de cette partie, c'est de souligner la relative continuité dans la manière de gouverner, notamment en raison du rôle des experts et des hauts fonctionnaires, qui ont été formés sous la 4e et qui arrivent au pouvoir, donc au sommet de l'État, au moment de la 5e, les énarques deviennent primordiaux. Ils gouvernent de plus en plus. De la même manière, dans les années 60, sont l'apogée de l'intervention de l'État, ce qu'on appelle l'État-solution. L'Étagonien poursuit la politique de l'État-providence et affiche une volonté de modernisation, et une volonté également d'État-régulateur. L'État se veut entrepreneur, concentration des entreprises avec ELF, lancement de grands programmes industriels, nucléaires notamment, dans le militaire et le civil, dans l'aérospatial ou encore dans l'informatique. L'État encourage la croissance grâce à une entente entre les technocrates et le patronat. En 1967, par exemple, un chiffre, l'État assure plus de la moitié des investissements en France. Et la forte croissance économique permet d'augmenter les recettes publiques. L'État est donc, dans les années 60, omniprésent et perçu comme la solution à tous les problèmes. C'est entre autres pourquoi, sous la Ve République, ses compétences s'élargissent encore. L'État se veut désormais aménageur. En 63, est créée la DATAR. Elle est liée au ministère de l'Intérieur et elle lance une vaste politique d'aménagement du territoire, plan neige, politique des ZUP. 800 000 logements, tout de même, sont construits entre 1958 et 1968. Politique des transports avec les autoroutes, Roissy en 74, etc.
Ou les politiques de loisirs avec la transformation du littoral du Languedoc.
Du Languedoc, tout à fait, le plan mer. L'État s'investit aussi désormais dans le domaine de la culture en créant en 1959 le ministère des Affaires culturelles, à la tête duquel est nommé le célèbre André Malraux. Sa principale mission est de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine culturel français. En guise de transition, on pourrait dire que...
Là, nous terminons la première partie.
Exactement. Voilà. Héritier d'une longue tradition centralisée, le gouvernement de la France fait donc une large place à l'État, qui se renforce et ne souffre guère que d'autres acteurs gouvernent à sa place. À partir des années 80, toutefois, l'État délègue une partie de ses pouvoirs. On arrive donc au grand 2, une érosion de l'État depuis les années 1980, point d'interrogation. L'économie connaît à partir de 73 un ralentissement durable. Les entreprises licencient, le chômage augmente, c'est la fin d'une période faste.
Il faut parler de la crise pétrolière à ce moment-là où on n'est pas obligé. Enfin, il faut quand même expliquer pourquoi l'économie ne tourne plus aussi rond.
Oui, en un mot, parce que ce n'est pas vraiment le sujet.
Et il faut nommer, puisque vous ne l'avez pas dit, les Trente Glorieuses, par exemple, puisque ce qui fait peut-être la continuité entre la 4e et la 5e, c'est le contexte économique.
Je ne nommerai pas les Trente Glorieuses, puisque, par ailleurs, outre d'être professeur au lycée, je mène des recherches en histoire, et l'un des objectifs de mes recherches est d'abandonner le concept de Trente Glorieuses, qui a été créé par un économiste, vieillissant et nostalgique, disons-le, et donc j'estime que cette période Trente Glorieuses a été insuffisamment questionnée et je décide de ne pas l'employer. Elle n'est heureusement pas spécifiée noir sur blanc dans les programmes, donc je peux m'en passer.
Voilà. Il y a néanmoins un changement de contexte à la fin des années 70, au début des années 80.
Il y a une évolution économique, tout à fait. Il y a une période faste, ce que j'appelle les très heureuses, de 1962 à 75. Et à partir de 75, effectivement, il y a la perception d'une crise. Donc on change de période à ce moment-là. Là, nous sommes d'accord, Fourastier et moi.
Alors, deuxième partie, on continue cette deuxième partie avec vous, Rémi Pavin.
Donc à partir des années 70, certains viennent à penser que l'État est plus le problème que la solution. Donc il y a une évolution de la perception de l'État. Alors, et c'est là que c'est huilé, puisque l'État, tout de même au début des années 80, met en place un certain nombre de politiques de relance keynésienne, notamment sous la présidence de Mitterrand, de 80 à 83, au moment du gouvernement Mauroy. Mais malgré une indéniable utilité, ces politiques ne parviennent pas à faire diminuer le chômage, et le déficit de l'État s'accroît. Donc on a un résultat en demi-teinte qui favorise la diffusion d'idées néolibérales en France. Elles viennent du monde anglo-saxon, Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni les mettent en place, et ces politiques parviennent en France, et remettre en cause l'interventionnisme d'État. L'idée des politiques néolibérales, c'est que l'État doit se désengager. L'État est perçu comme un frein, quelque chose de rigide, et pour les néolibéraux, il faut laisser fonctionner la loi naturelle de l'économie, fondée sur le libre-échange, le jeu du marché, la libre concurrence, l'offre et la demande, etc. Donc finalement, l'État ne doit pas gouverner et doit laisser le champ
les
libre
à des
acteurs privés économiques le soin de gouverner. Du coup, l'État doit au contraire mener des politiques de rigueur, lutte contre le déficit budgétaire, et il doit être le garant de l'ordre social. La solution néolibérale a séduit la droite française dans les années 80 et la gauche française s'y est également finalement convertie. La France rompt véritablement avec le modèle de l'État entrepreneur à partir de 86. On a, et là il faut les citer, les privatisations du gouvernement Chirac lors de la première cohabitation, donc de 1986 à 1988, Mitterrand de gauche étant président, Chirac de droite Premier ministre, avec par exemple les banques, Saint-Gobain, TF1, au moment du gouvernement Balladur, deuxième cohabitation de 93 à 95, privatisation de Rhône-Poulenc, de Total. Au moment du gouvernement de Juppé, donc sous Chirac, de 95 à 97, Usinor et Renault. Et ce qui est très caractéristique, c'est que le retour au pouvoir d'un gouvernement de gauche, Lionel Jospin, au moment de la troisième cohabitation, ne remet pas en question les privatisations. Au contraire, c'est même lui qui privatise le plus, avec Air France, France Télécom, etc. L'aveu de Lionel Jospin face aux ouvriers licenciés de Michelin, en 1997, témoigne de ce désengagement progressif de l'État. Il nous dit, je cite, « l'État ne peut pas tout », ce qui est assez caractéristique. Donc, le consensus national sur l'État entrepreneur est mis à mal. Les solutions néolibérales, disons-le tout de même, elles n'ont pas non plus permis de retrouver le chemin de la croissance économique durable, elles n'ont pas réduit le chômage, et elles ont, au contraire, entraîné un accroissement des inégalités. Et au moment où elles sont mises, donc les gouvernements se succèdent sans parvenir à rétablir la confiance. Outre le domaine économique, cette nouvelle manière de penser touche aussi l'État-providence. Un certain nombre d'acteurs gouvernementaux et néolibéraux estiment que l'État-providence doit disparaître, l'État doit se replier sur ses seules fonctions régaliennes et laisser le reste au secteur privé. L'État donc doit agir comme un manager, et cette conception managériale qu'on peut regrouper sous la théorie du « New Public Management », le nom montre bien qu'elle vient du monde anglo-saxon, eh bien cette politique s'applique notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, lors de la fameuse RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques. Il s'agit d'une politique d'économie et de dépenses qui se traduit notamment par la réduction des effectifs de la fonction publique, la fameuse règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Alors à ce stade, je crois que l'élève doit faire preuve d'une pensée nuancée. L'État-providence n'a pas disparu en France. On a tout de même la création du revenu minimum d'insertion en 88, de la couverture maladie universelle en 97 et du revenu de solidarité active en 2007.
Le RSA.
En TS, comme les responsables des programmes ont introduit la question de l'opinion publique, on doit également lui faire une petite place et souligner que depuis les années 1980, le politique est de plus en plus discrédité, notamment en raison des scandales politico-financiers, écoute téléphonique de l'Élysée, emploi fictif de la mairie de Paris, affaire Strauss-Kahn, etc. Et plus que ces scandales, surtout, je crois que la gauche et la droite, et c'est ça qui crée la méfiance dans l'opinion publique, la gauche et la droite ont été incapables de résoudre les problèmes de la société et d'inventer des visions politiques nouvelles. Les trois cohabitations, surtout, ont aux yeux des Français estompé le clivage entre la gauche et la droite. Et alors, la réforme constitutionnelle de 2000, qu'on doit évoquer également, y a mis fin, mais l'opinion publique est toujours plus méfiante. Quoi qu'il en soit, les débats sur le rôle de l'État dans l'économie et dans la société se font au même moment où s'opère un amoindrissement des prérogatives de l'État. À partir des années 80, avec la mondialisation, la construction européenne, la décentralisation, l'État n'est plus le seul gouvernant et d'autres institutions ont pris le relais dans les processus de décision.
Donc ça, c'est important, j'imagine, en s'acheminant vers la conclusion, au bout du compte, Rémi Pavin, que de montrer que cette question du gouvernement ne se fait plus à un seul acteur, un acteur principal et majeur, l'État en l'occurrence, mais qu'il y a concurrence donc liée à la décentralisation à partir de 1982 et à la création de collectivités territoriales assez fortes, d'une certaine façon, mais aussi à la délégation de pouvoir à l'Europe et peut-être aussi au FMI ou aux grandes instances internationales qui peuvent être là pour pouvoir surveiller justement ce gouvernement d'un pays comme la France, c'est cela ?
Exactement, l'État a délégué par le bas et par le haut, et on doit le souligner puisque la question c'est gouverner, c'est pas l'État. Hein. Donc par le bas, il s'agit de la décentralisation, le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, on doit mentionner les lois Defferre, et puis les lois prises sous Raffarin en 2003-2004. Avec ces lois, l'État ne gouverne plus tout en France, mais délègue certains pouvoirs aux collectivités territoriales. Par le haut, il a aussi transféré ses compétences à l'Europe, une partie de ses compétences, et on pourrait citer éventuellement le cas de la monnaie, puisque auparavant, depuis la monarchie, l'État battait monnaie et se réservait cet outil de gouvernement. Avec la création de la Banque centrale européenne, indépendante du politique, l'État renonce à cet outil de gouvernement. Plus largement, on pourrait parler de l'harmonisation législative en Europe, et en soulignant par exemple qu'aujourd'hui, 50% de la législation nationale est d'origine communautaire. Donc pour la France, intégrer l'UE, ça conduit à une forme de perte de souveraineté, et l'opinion publique est inquiète de ce transfert. Alors, pour achever la dissertation...
Oui, parce que là, on a donc deux parties bien claires, une introduction, vous l'avez bien montré, et maintenant, on arrive vers la fin.
Tout à fait, on arrive au dernier moment de la dissertation avant la conclusion. On doit quand même nuancer cette érosion de l'État en soulignant que l'État reste un acteur clé sur le plan économique et social, et l'État reste également un acteur clé sur le plan politique. Quand, par exemple, il y a eu la crise de 2008, les banques, qui se font pourtant les héros de la pensée néolibérale, sont allées voir l'État, et lorsque l'État... C'est actuellement le cas, essaye de détruire tout un pan de l'État-providence en modifiant le droit du travail, l'opinion publique déclenche un mouvement social, signe qu'elle est quand même attachée à l'État.
Et ça, on peut le mettre dans une copie, c'est de l'actualité d'une certaine façon, c'est plus d'histoire.
C'est 2,46 à nos jours, ouais, c'est l'histoire du temps présent.
Oui, justement, j'allais insister là-dessus. Vous avez dit que c'était un sujet difficile à traiter pour les professeurs. Les élèves qui sont nés entre 97 et 99 ont quand même, pour certains, une conscience politique. Vous parlez de l'Europe et du problème de la souveraineté. Est-ce qu'il faut être très prudent dans ce qu'on dit ? Est-ce que les opinions politiques transparaissent parfois dans les copies des élèves ? Est-ce que c'est dangereux ?
Il faut savoir raison garder. Il faut toujours avoir une pensée modérée et nuancée. Après, si l'élève, notamment en conclusion, au moment où on arrive, il peut éventuellement évoquer son opinion personnelle. Donc, dans la conclusion, on répond aux problématiques. C'est le point de méthode. Donc, l'État occupe une place particulière en France, celle d'un régulateur, d'un acteur de tout premier plan. Son rôle a fortement évolué depuis 1946. Il s'est tout d'abord renforcé avant de refluer quelque peu sous l'influence des théories néolibérales. Viendra enfin le temps de l'ouverture. Et c'est un moment toujours délicat, puisqu'il faut surtout éviter les questions qui sont très dangereuses. Souvent, l'élève pose de fausses questions et ça énerve le professeur en dernière instance, c'est un peu dommage. Donc, on préférera une citation et on soulignera qu'in fine, à travers la France de 1946 à nos jours, cette étude a permis de mettre en valeur plusieurs conceptions opposées du bon gouvernement. La question du meilleur gouvernement a passionné philosophes et publicistes depuis l'Antiquité. Et sans trancher entre celles qu'on a mises au jour dans ce devoir, on pourra sans doute être d'accord avec Goethe, pour lequel, je cite, « Le meilleur gouvernement est celui qui nous enseigne à nous gouverner nous-mêmes. »
Et vous allez voir si, en tant que correcteur, si les correcteurs nous écoutent, si vous avez eu de l'influence, parce que si on retrouve dans cette phrase, dans la conclusion de beaucoup de copies, donc autour de gouverner la France, c'est que vous aurez été écouté, Rémi Pavin, répétez-nous la phrase, « Le meilleur gouvernement
est celui qui nous enseigne à nous gouverner nous-mêmes. »
Merci Rémi Pavin pour se corriger autour de cette question « Gouverner la France depuis 1946 ». Je rappelle que vous êtes historien du bonheur, c'est pour votre travail universitaire, et que par ailleurs, donc, vous êtes enseignant au lycée Blaise Sandrard à Sevran. Vous n'avez pas d'élèves dans cette salle, ils ne sont pas venus avec vous, mais il y a des élèves du lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine qui veulent poser une question. Allez-y, vous avez le micro.
C'est quoi l'article 16 ?
Eh oui, c'est quoi l'article 16 ?
Alors l'article 16, c'est donc l'article de la Constitution de 1958, c'est le 16e article, c'est pour ça qu'on l'appelle l'article 16, qui permet au président de la République, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'obtenir un grand nombre de pouvoirs, si je simplifie.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un article important parce qu'il justifie ce qu'on dit généralement de cette Constitution, c'est qu'elle donne plus de pouvoir au président qu'aux représentants élus de la nation à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat, par exemple ?
Ah oui, c'est ce qui a fait, disons-le, hurler un certain nombre d'opposants justement au changement constitutionnel de 1958.
Est-ce qu'il y a une autre question à Rémi Pavin ? Pas d'autres questions, Rémi Pavin. Alors moi, je vais en donner une autre, en l'occurrence, puisque gouverner la France depuis 1946, c'est votre corrigé, pourrait-on dire. Comment, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien la pratique du baccalauréat, comment cela se passe-t-il? C'est-à-dire que, est-ce que si j'avais donné, on nous avions donné ce thème-là à 10 professeurs d'histoire de terminale S, eh bien, il y aurait 10 corrigés extrêmement différents, ou est-ce qu'au bout du compte, on peut trouver des grandes constantes et puis des variations autour d'un même thème, d'une certaine façon, Rémi Pavin?
Oui, si on avait donné sujet à 10 professeurs d'histoire-géographie différents, on aurait eu 10 dissertations différentes. Par exemple, je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui, dans leur plan, introduisent la rupture de 58. Mais, comme vous le disiez, il y a quand même un certain nombre de grandes constances. Il faut évoquer les constitutions, il faut évoquer...
la création de l'ENA.
Tout un tas de choses qu'on retrouverait dans les 10 copies. Après, réorganiser sans doute de manière quelque peu différente. On peut aussi sans doute construire un plan thématique, peut-être plus politique, avec des manières de concevoir le gouvernement, en fonction aussi peut-être des échelles de gouvernement. Il y a pas mal de plans possibles pour un sujet aussi vaste.
Une autre question. Allez-y.
Vous avez dit tout à l'heure dans la deuxième partie que la France a opéré plusieurs décentralisations, à la fois vers le bas au niveau des...
Des régions?
Oui, voilà, des régions tout à fait, et vers le haut, à travers le FMI, l'Europe. Est-ce que vous pensez que ces décentralisations, elles ont fragilisé la France? Et est-ce qu'on peut en parler dans notre copie?
Alors, la décentralisation, hein, les mots doivent être précis. La décentralisation, c'est le transfert de compétences vers le bas. Hein, donc, c'est la délégation des compétences aux régions. Donc, dire que la construction des régions a fragilisé la France, ça me paraît un petit peu audacieux. Dans une copie d'histoire-géographie, il vaut mieux tout de même éviter de trop donner son avis. Peut-être même que moi, je me suis laissé aller à laisser transparaître certaines opinions dans mon corrigé,
pas
peut-être de manière un petit peu outrancière. Mais ça me paraît, voilà. Donc, il faut être nuancé. Et par exemple, à propos de l'Europe, vous pouvez en conclusion prendre parti pour ou contre la construction européenne, tant que vous gardez une opinion qui s'exprime avec nuance et de manière pas trop violente, vous pouvez tout à fait effectivement dire qu'au moment du refus des Français au référendum de 2005, que je n'ai pas eu le temps de citer mais que vous pouvez citer, eh bien les Français ont nettement marqué leur désapprobation par exemple.
Merci donc à Rémi Pavin, au lycéen du lycée Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine pour cette première émission de notre série Bac Mention France Culture avec Le Monde Campus, une émission préparée par Aurélie Marcet, à la technique Stéphane Desmonts, Julien Calvas, Julie Calvas, Stéphane Touvenin et Sophie Pierre et Véronique Samuilov à la réalisation. Demain, nous interrompons notre semaine sur la préparation de ce bac d'histoire pour un entretien exceptionnel qui sera peut-être en lien d'ailleurs avec l'émission de ce matin avec François Hollande, président de la République, sur son imaginaire historique. Qu'est-ce que commémorer? À quoi sert l'histoire en politique? Y a-t-il besoin d'un récit national et d'un seul? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons au président de la République pour cette émission exceptionnelle de demain dans la Fabrique de l'Histoire.